Chapitre 3. Quand Carla et Zoé étaient petites, être mère me paraissait facile. Il me suffisait de veiller à ce qu'il ne leur arrive rien. Je les couchais sur le dos dans leur berceau, en prenant garde qu'elle n'ait pas trop chaud et qu'il n'y ait aucun objet dangereux à proximité. Je vérifiais la température de l'eau du bain, celle du lait en versant quelques gouttes à l'intérieur de mon poignet. J'introduisais un aliment après l'autre dans leur repas, pour m'assurer qu'elle n'avait pas d'allergie, le tout en respectant scrupuleusement le calendrier de diversification alimentaire que j'avais affiché sur la porte du frigo. Il y avait des systèmes de sécurité sur les placards. Les produits d'entretien étaient inaccessibles, rangés en hauteur. Arnaud avait posé une barrière en haut et en bas de notre escalier. Chaque prise de courant était pourvue d'un capot de protection. Tout était sous contrôle. La vie était simple. Lorsque les filles avaient envie d'un câlin, elles venaient se blottir contre moi. J'enfouissais mon nez dans leurs cheveux pour m'enivrer de leur odeur. C'était doux. Je parvenais à tenir mes angoisses à distance. Et puis elles ont grandi, ont eu d'autres attentes. Veiller à leur sécurité n'était plus suffisant. Elles ne se précipitaient plus dans mes bras pour que je les console après un cauchemar. Il aurait fallu remplacer les gestes par des mots. Mais je ne savais pas comment faire. J'avais peur d'être ridicule, d'être rejetée. Je suis restée dans mon registre, dans ce qui m'était familier. Leur fixer des horaires, des limites, contrôler les devoirs, les responsabiliser en leur demandant de monter leur linge, ranger leur chambre. Mais je ne savais rien d'elles. J'ignorais quel genre de musique elles écoutaient, ce à quoi elles rêvaient, ce qu'il se passait avec leurs copines. Si quelqu'un faisait battre leur cœur, je n'avais pas su créer cette proximité qui permet de se raconter tout et n'importe quoi. Nous n'étions pas complices, pas comme elles l'étaient avec leur père, avec qui je les apercevais souvent échanger des regards, des clins d'œil. Non pas que je ne le désirais pas, au contraire, mais j'avais peur d'être intrusive. On dit souvent que le temps qui passe est un précieux allié. Ce n'est pas toujours le cas. Il creuse aussi les distances. Il éloigne les gens. Mes filles grandissaient et peu à peu, je n'ai plus eu les bras assez longs pour les ramener jusqu'à moi. Un soir, après une réunion interminable, je suis rentrée à la maison vers 20h, stressée et fatiguée. En déficit de cuillère, dirait Catherine. Pour trouver Arnaud au bord de la panique. Carla n'était pas rentrée du lycée. Il était prévu, m'avait-il appris, qu'elle passe chez une copine pour travailler sur un exposé. Elle avait promis qu'elle serait de retour vers 19h. Mais une heure plus tard, elle n'était toujours pas rentrée. Il était fou d'inquiétude. Je lui avais d'abord reproché de ne pas m'avoir prévenu, avant de me rappeler que je coupais systématiquement mon téléphone pendant les réunions. Je lui avais demandé s'il avait appelé Mathilde. Peut-être que Carla était chez elle et qu'elle n'avait pas vu l'heure. Sauf que Mathilde et elle étaient apparemment en froid depuis des semaines. C'était sa meilleure amie depuis des années, et j'ignorais qu'elle ne se parlait plus. Tout comme j'ignorais qu'elle venait de vivre son premier chagrin d'amour. Un certain Lucas en classe de terminale. Mon bébé était tombé amoureuse, et je n'en savais rien. Zoé ne nous avait été d'aucun secours. Les relations entre elle et sa sœur n'étant pas des plus simples. À 21h, après avoir appelé toutes les connaissances de notre fille, Arnaud avait prévenu la police. L'officier nous avait posé quelques questions, retraçant l'emploi du temps de Carla et tentant de déterminer chez qui elle aurait pu aller. Il avait essayé de nous rassurer avec cette statistique que tout le monde connaît, 80% des fugueurs rentrent chez eux dans les 48 heures, mais à laquelle personne ne réussit vraiment à se raccrocher. Nous lui avions envoyé une photo récente de notre fille afin qu'il puisse émettre un avis de recherche. Il n'y avait pour l'heure pas grand-chose d'autre à faire qu'attendre le lendemain. Aucun de nous deux n'avait pu fermer l'œil de la nuit. Nous avions essayé de la joindre des centaines de fois, tombant inlassablement sur le même message d'accueil « Bonjour, c'est Carla, vous savez quoi faire ». Pour la première fois ce soir-là, Arnaud m'avait violemment reproché de ne pas être présente. De ne pas m'intéresser à mes filles. de ne pas être à la hauteur. J'étais dans un tel état d'angoisse que je ne m'étais pas défendu. À quoi bon, de toute façon? C'est lui qui avait raison. Je n'étais pas une bonne mère, ni même une mère tout court. Le lendemain, après avoir conduit Zoé au collège, j'avais prévenu mon assistante que je serais absente. « Rien de grave, » avais-je dit. « Un simple virus. Une bonne journée de repos et il n'y paraîtrait plus. » De retour à la maison, et pour ne pas devenir complètement folle, j'avais réorganisé tous les placards de la cuisine, rangé le tiroir à épices par ordre alphabétique, puis je m'étais attaquée au tri des médicaments en fonction des dates de péremption. Carla est réapparue dans l'après-midi. J'étais assise par terre dans le salon, notre pharmacopée étalée tout autour de moi. Elle avait ouvert la porte. Simplement, comme si elle rentrait du lycée parce qu'un professeur était absent. Elle avait les traits tirés et de gros cernes noirs sous les yeux. Arnaud s'est précipité pour la prendre dans ses bras, sanglotant de soulagement. Je crois que je ne l'avais jamais vue pleurer. Quant à moi, je me revois me lever, faire quelques pas vers ma fille avec l'envie de la prendre dans mes bras, de lui dire combien je l'aimais. Mais je m'étais arrêtée dans mon élan, et l'amour s'était exprimé par des mots de colère. Je m'entends encore lui hurler dessus. « À quoi est-ce que tu pensais ? Pas à nous, visiblement. Ça ne t'est pas venu à l'esprit que ton père et moi allions être morts d'inquiétude ? On a essayé de t'appeler des centaines de fois. Un petit texto, juste pour nous dire que tu vas bien, c'est trop demandé ? Si tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, tu te fous le doigt dans l'œil. Sache que désormais, tu ne sortiras de cette maison que pour aller au lycée. Tu rentreras directement après les cours. Plus de portable, plus d'iPad, plus d'Internet. Tu vas avoir tout le temps de te concentrer sur tes maths et faire remonter ta moyenne. » La peur m'avait rendue mauvaise. Carla n'avait pas dit un mot. Elle s'était contentée de me regarder, les yeux débordant de larmes. Puis elle était montée dans sa chambre. Le claquement de sa porte m'avait fait sursauter. Arnaud n'avait rien dit non plus. Lui aussi s'était contenté de me regarder froidement, avant de rejoindre sa fille. De nouveau seule dans le salon, j'étais retournée m'asseoir au milieu de mes médicaments, avec d'un côté les bons, de l'autre les périmés. Et je m'étais mise à pleurer, sans bruit. Je me sentais si coupable. J'étais si fatiguée. J'aurais dû aller voir ma fille, lui dire que j'étais désolée, que je l'aimais plus que tout. Et j'étais restée là, à trier ces foutus médicaments jusqu'au dernier.